tant que vos voix s'élèveront, tant que vos talents et vos énergies s'exprimeront, tant que vous continuerez à vivre en femmes et en hommes libres, la République vivra. Parce qu'elle est fragile et parce que tant de choses sont encore à imaginer et à bâtir ensemble, il nous appartient à tous de prendre le plus grand soin de notre République, de notre bien commun.
Bonjour Monsieur le Consul Général, je m'appelle Miyako avec ma camarade Laure qui devait être présente aujourd'hui, mais qui malheureusement est malade. Nous sommes toutes les deux élèves de 3e. Nous participons à la web radio sous le nom des Pipelettes. Nous avons réalisé une émission sur la Première Guerre mondiale.
Qui était de très bonne qualité, bravo.
Merci beaucoup.
Nous l'avons abordée afin que nos jeunes auditeurs puissent mieux comprendre cet événement marquant. Nous avons évoqué la vie des soldats dans les tranchées, l'importance des chansons et enfin les correspondances écrites. Grâce aux recherches que nous avons réalisées, nous en savons à présent beaucoup plus. Et nous espérons avoir pu transmettre ces connaissances à nos auditeurs. C'est un sujet qui nous a particulièrement marqués. Vous pouvez nous écouter sur www.radiolfv.net. Bonne écoute !
Merci, j'avais déjà écouté votre émission, effectivement. Hier soir, quand elle m'a été signalée par votre proviseur.
Merci.
Après avoir secoué le joug de la tyrannie qui les oppressait depuis toujours, ces femmes et ces hommes prirent les armes pour défendre ce trésor si précieux et rêvèrent à ces trois mots. Liberté. Égalité. Fraternité.
Bonjour Monsieur le Consul, je m'appelle Sophia.
Et j'ai participé il y a quelques années à la commémoration du 11 novembre à Montjuïc. Que représente pour vous, Monsieur le Consul, le 11 novembre ?
Le 11 novembre, ça représente plusieurs choses. Tout d'abord, c'est pour moi un moment de recueillement en mémoire de tous les anciens combattants qui ont sacrifié leur vie pour défendre à la fois notre sol, nos valeurs et notre liberté. C'est aussi un moment de partage qui réunit notre communauté nationale autour des valeurs républicaines, mais qui réunit, au-delà de notre communauté nationale, nos amis et nos alliés autour de cette commémoration. C'est aussi un moment de réconciliation, hein, de réconciliation avec ceux qui, à un moment donné de l'histoire, ont pu combattre d'un côté ou de l'autre, mais qui finalement ont décidé de regarder ce qu'ils avaient en commun plutôt que ce qui les séparait. Et c'est aussi, pour moi c'est très important, un moment de transmission, hein, de transmission aux jeunes générations, à la fois de la mémoire elle-même, mais aussi du devoir de mémoire. Parce que je considère que sans connaître son histoire, on n'a pas d'avenir. Hein. On ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où l'on vient.
Merci, monsieur.
Bonjour, monsieur le consul. Je m'appelle Dan.
Étant en classe de 3e, nous avons tous travaillé la Première Guerre mondiale cette année. Le 11 novembre est un jour qui est férié en France, et comme vous le savez, l'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale étant un pays neutre. Dans ce cas, à votre avis, pourquoi commémorer le 11 novembre à Barcelone ?
Je vois deux raisons essentielles pour commémorer le 11 novembre à Barcelone. Tout d'abord, c'est parce qu'il existe une communauté française importante et ancienne à Barcelone et qui a donc connu en son sein, parmi les siens, des victimes de cette Première Guerre. Et puis, marquer le 11 novembre, c'est aussi rappeler ce qui fait de nous des Français. Où que nous vivions, quelle que soit notre origine. C'est ce que nous avons en commun, ce qui fait que nous faisons nation. Donc c'est important de le commémorer aussi avec les communautés françaises de l'étranger, et donc celle de Barcelone en particulier. La troisième raison pourquoi il est important de commémorer le 11 novembre à Barcelone, c'est aussi parce que nous voulons partager cette mémoire avec nos amis espagnols. Cette mémoire, elle ne nous appartient pas, c'est une mémoire qui appartient à l'humanité, et nos amis espagnols doivent y être associés aussi, même s'il n'avait pas pris une part aussi active dans le conflit lui-même.
Bonjour Monsieur le Consul, je m'appelle Martina. Donc comme Dan nous l'a dit, nous avons étudié cette année la Première Guerre mondiale en histoire. Et souvent, on oppose la mémoire et l'histoire. Donc que signifie pour vous, Monsieur le Consul, le devoir de mémoire ?
Par mon expérience de diplomate, J'ai vécu dans des pays qui avaient un rapport différent à la mémoire. J'ai vécu au Chili, j'ai vécu au Pérou, j'ai vécu en Turquie. J'ai pu observer que les pays qui n'avaient pas réglé cette question, qui ne souhaitaient pas l'aborder, qui ne souhaitaient pas reconnaître la souffrance de certains de leurs citoyens, avaient du mal aujourd'hui à définir à la fois leur identité et le futur qu'ils pouvaient construire en commun. Et cela m'a conforté dans ma conviction qu'il est nécessaire d'entretenir le souvenir, non comme une nostalgie, mais comme un devoir de respect, envers ceux qui nous ont précédés, mais aussi comme un garde-fou pour nous rappeler les horreurs de la violence, et enfin aussi comment il est le ciment de notre identité nationale, qu'il appartient à chacun en tant que citoyen de raviver au quotidien. C'est aussi le sens de cette flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris qui est permanente. Et donc, cette mémoire doit être permanente. Ce que je viens de dire sur l'idée que chaque citoyen doit raviver au quotidien cette mémoire pour qu'il en soit à la fois le porteur, l'héritier et le passeur aussi.
Je vous remercie.
Bonjour, monsieur le consul. Je m'appelle Nerea, je suis espagnole et française. Vous avez ici diverses nationalités, japonaises, mexicaines et italiennes, qui font la richesse de notre lycée. Monsieur le consul, que pensez-vous du rôle de la construction européenne pour préserver la paix ?
Dès ma génération, mais c'est encore plus vrai pour la vôtre, nous avons vécu avec l'idée que la paix en Europe était acquise. Mais ce n'était pas vrai ni pour mes parents, ni pour mes grands-parents, c'est-à-dire pour ceux qui sont vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, et qui avaient vécu, eux, les affres de la guerre. Mais nous ne devons pas oublier que cette paix que nous considérons comme acquise, elle est le résultat d'une construction, d'une volonté politique, au sens le plus noble du terme. C'est la conviction que pour éviter que l'Europe se retrouve à nouveau déchirée comme elle le fut si durement à deux reprises en l'espace de 30 ans, il fallait construire ensemble un avenir commun. Il fallait dépasser les différences pour trouver ce qui nous rassemble, ce qui fait notre identité commune, ce qui fait une société commune, et construire là-dessus. On ne peut pas construire si on ne sait pas d'où l'on vient. Cette dimension mémorielle, cette dimension de construction volontaire de la paix est une dimension qu'il ne faut pas oublier quand on regarde aujourd'hui la construction européenne, et notamment quand on porte un regard un peu trop critique sur cette construction européenne.
Je vous en remercie.
Et si vous aviez encore quelques minutes à nous accorder, monsieur le consul, pourquoi pensez-vous qu'il est important d'associer les jeunes et l'école à ces commémorations ?
La commémoration du 11 novembre, elle ne doit pas être uniquement tournée vers le passé. Bien sûr, elle est un moment de reconnaissance envers ceux qui sont morts pour la patrie. Mais c'est aussi un moment où nous prenons les jeunes générations par la main pour leur dire « voilà ce qui s'est passé il y a 100 ans, vous êtes à votre tour les dépositaires de cette mémoire et il vous appartient, à vous aussi, même si cela vous semble loin, de renouveler le pacte national et européen du plus jamais ça, plus jamais ces horreurs sur notre territoire. » Ce travail, nous le faisons, nous, en tant que responsables publics, c'est pour ça que c'est important d'avoir à nos côtés aussi un des élus représentant les Français de l'étranger, mais nous le faisons aussi, en particulier, avec l'école, avec vos enseignants, en particulier ceux d'histoire, bien évidemment, mais aussi le professeur de français. Et c'est pour ça que je voulais terminer en vous invitant à lire Maurice Genevoix, cet auteur qui rentre aujourd'hui au Panthéon, car ce qu'il nous écrit de la guerre peut vous aider à comprendre les enjeux aujourd'hui de cette mémoire que nous entretenons ensemble. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
Un jour, au plus beau du moment où fleurit l'espérance, tu quitteras tes parents, ta femme, tes enfants, tout ce que tu chéris, tout ce qui tient ton cœur et l'enserre. Et tu t'en iras, chantant comme hier, mais une toute autre chanson, avec des frères, avec des vrais frères, ceux-là, au-devant de la mort affreuse, qui fauchera des vies humaines en un effroyable ouragan. Et voilà qu'à ce moment suprême, tu reverras dans un éclair tout ce qui peut ressembler à ce mot si doux. Le pays. Et ta cause, te paraîtra si belle. Tu seras si fière de tout donner pour elle que, blessé ou frappé à mort, tu tomberas content.
Bonjour Monsieur le Consul Général, bonjour Monsieur le Proviseur, bonjour les élèves, c'est surtout à vous qui sont notre avenir. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'Association du Souvenir Français. C'est Monsieur Pichot qui s'en occupe. Chaque année, moi, avec mes élèves de terminale jusqu'à cette année, on avait une petite délégation, il y avait une spécialité sciences politiques qu'on faisait et on allait accompagner les anciens combattants à Montjuïc. On allait aussi les accueillir au réfectoire. Et j'étais très heureux d'être en contact, de pouvoir parler avec les jeunes générations et les élèves aussi. Comme l'a signalé Monsieur le Consul, il y a un travail de mémoire à faire. D'où le rôle du souvenir français, des associations d'anciens combattants, ce rôle de mémoire. Le souvenir français qui a démarré en 1887, donc durant la Troisième République, quand la Troisième République était déjà bien consolidée. Et l'objectif, c'était de se souvenir des morts à la guerre de 1870 contre les Prussiens. Donc, c'est ça l'origine du souvenir français de l'association. Ils font vivre ce souvenir. Ce n'est pas du tout dans un esprit de revanche, ni dans un esprit militaire, mais c'est le souvenir. Rendre hommage aux gens morts et aussi aux combattants, aux gens disparus, les aider, etc. Et faire vivre ce souvenir d'une autre époque, mais qui est encore présent, qui est bien dans les mémoires de tous. Alors, vous, c'est peut-être... vous avez plus ou moins vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont la mémoire de l'histoire. Il y a l'histoire que vous voyez en cours et aussi il y a l'histoire familiale. Et le souvenir français, à la fois, entretient l'histoire familiale de chacun, mais aussi l'histoire tout court. C'est très important, les hommages qui créent du lien social, le lien citoyen. Je suis très attaché à ce lien citoyen. Et si vous m'avez plus tard, j'insisterai beaucoup sur un auteur que j'aime beaucoup, un sociologue, c'est Émile Durkheim, qui est vraiment le grand sociologue de la citoyenneté. Il va donner un sens à ce qu'est la République, à ce qu'est une nation, et aussi à ce qui relie les individus à travers la citoyenneté, quelles que soient nos origines.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confèrent, quels devoirs leur imposent la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme, il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force.
Alors, rapidement, je vais vous faire un petit résumé du texte de M. Pichot, le président du Souvenir français en Espagne. Les conflits se sont portés entre la rivalité franco-prussienne, franco-allemande. Donc, vous connaissez le désastre de la Première Guerre mondiale. Et là, on fête la fin des combats le 11 novembre. Des millions de morts des deux côtés, des destructions. Il fallait reconstruire le pays. Donc, les anciens combattants se transformaient après aussi en personnes qui devaient retravailler, reproduire. Il y en avait qui étaient blessés. On a parlé des gueules cassées, etc. Donc, tout le temps, ça a été un éternel recommencement, un conflit après une reconstruction, un conflit. Et les gens étaient habitués à vivre dans la guerre. À 18 ans, on faisait son service militaire, parfois longuement, 2-3 ans. Les femmes aussi avaient un rôle essentiel à jouer. C'est elles qui soutenaient pendant les conflits toute l'économie. L'histoire du XXe siècle est traversée de la rivalité franco-allemande. Et le 11 novembre, il faut le voir comme une fête de réconciliation, de création de l'Europe. Et pas seulement comme une fête de la victoire. Ce n'est pas vraiment le 11 novembre une victoire pour personne. C'est une défaite pour toute l'Europe. De même, le 8 mai 45, c'est aussi une défaite pour toute l'Europe. C'est la fin des combats. Mais déjà, le 8 mai 1945 annonce le projet européen. Le 11 novembre comme le 8 mai sont des fêtes avant tout européennes pour construire ensemble une Europe de paix, pacifique. Et c'était, je crois, Montesquieu qui parlait du doux commerce. Et c'est vrai que fait fête du commerce, pas la guerre. On est dans un établissement international, pas seulement franco-français. Grâce à ces liens entre les Européens, on crée la paix, on génère la paix. De plus en plus, on n'a qu'à voir, depuis 1945, la paix s'est instaurée grâce à la construction européenne. Et je voudrais défendre cette construction européenne. Et on l'a fait vivre, cette construction européenne, à travers le 11 novembre et le 8 mai. Donc là, vous êtes tous des Européens. Moi-même, je me sens européen. Et donc, c'est ça le sens du texte hein, de M. Pichot. C'est vous qui faites l'avenir de l'Europe, hein, mais c'est vous qui la construisez, cette Europe. Hein. Vous avez l'avenir devant vous hein, pour construire cette Europe, ce beau projet. Alors, et à travers le 11 novembre, à travers le souvenir des morts pour la France, pour d'autres pays, on fête cette Europe, cette nouvelle ère. Et on n'oublie pas qu'on a été en guerre. On s'est massacré entre nous. On est dans un esprit pacifié et il faut se tourner maintenant vers l'avenir. C'est vous l'avenir. Et c'était le sens là du texte de Monsieur Pichot.
D'une république à l'autre, les hommes et les femmes continuèrent à construire leur destin et à faire entendre leur voix. Si l'école devint obligatoire et gratuite pour tous, et si l'éducation se trouva au centre des préoccupations, bien d'autres combats restaient encore à mener. Celui de la justice, celui de la laïcité, celui de la démocratie, et donc celui fondamental de la reconnaissance du droit des femmes.
Alors maintenant, je vais parler de Jour de gloire, voilà, c'est un peu le coup de cœur. L'idée provient d'un professeur de musique hein, en 2014. Et donc, il vient de sortir, il est totalement d'actualité. Alors, c'est des beaux textes qui sont lus, mis en musique, par des personnalités connues, hein, de très très beaux textes. Et je vous conseille de les écouter, de lire les textes, de les écouter en musique. Hein. Vous avez aussi bien des rappeurs, des musiciens, des acteurs qui livrent ces très beaux textes sur la République. En vrai, on est avant tout français, non pas par la naissance, mais avant tout par l'adhésion aux valeurs citoyennes de la République. Avant tout, être français, c'est respecter des valeurs. Hein, j'insiste beaucoup, et ces beaux textes, c'est des textes de valeur, de fraternité, d'égalité aussi.
Entendez-vous dans les campagnes gémir ces féroces soldats qui viennent jusque nos bras, gorger nos fils, nos compagnes.
On arrive au terme de notre émission. Je voudrais vous remercier tous très chaleureusement, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur Hubert, Monsieur le Conseiller Consulaire, et puis les élèves, nos ambassadeurs et puis nos historiens. Je suis vraiment très, très sensible à cet échange, aux paroles que vous nous avez apportées, qui donnent un éclairage à la fois profond et stimulant, je crois, pour la réflexion qu'on peut avoir sur un lycée français en Espagne, sur les valeurs sur lesquelles on base à la fois notre histoire, notre éducation et puis le parcours des élèves.
La France, pays des droits de l'homme, est grande parce qu'elle est généreuse. Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots-là ont fait le tour du monde. Continuons de les porter et de les chérir. Continuons de défendre les valeurs humanistes, les valeurs de justice et de tolérance qui sont notre trésor le plus précieux.